parole de Dieu.
Merci.
Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas eu le temps de saluer. C'est toujours une grâce pour nous et un bonheur aussi de se retrouver tous ensemble. Nous qui formons cette grande famille des enfants de Dieu. Nous allons à présent méditer la parole du Seigneur. Mais avant toute chose, prions d'abord. Seigneur notre Dieu, nous te prions, Père, de venir au secours de notre faiblesse et que ton esprit nous aide, Seigneur, à comprendre et à contempler les merveilles qui se trouvent dans ta parole. Conduis-nous maintenant et que toi seul tu puisses parler en nous, au-dedans de nous, car c'est ta parole que nous voulons t'écouter. Au nom de Christ, amen. Nous allons méditer ce matin dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, le verset 1 à 12. Évangile de Marc, au chapitre 2, le verset 1 à 12. Marc, c'est juste après Matthieu. Marc, chapitre 2, verset 1 à 12. Nous lisons la parole du Seigneur. Le verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il s'éleva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Chers frères et sœurs, le thème de notre méditation ce matin, bon, j'ai voulu l'intituler comme ceci, « La foi et la détermination des amis du paralytique. La foi et la détermination de ces quatre hommes qui étaient des amis du paralytique. Notre texte commence par cette phrase. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum, où Jésus avait guéri la belle-mère de Pierre, si nous voyons bien au chapitre 1. Jésus avait guéri aussi plusieurs malades. Jésus avait guéri aussi un lépreux. Et Jésus était maintenant à la maison. Les gens ont appris que Jésus était là. Il était à la maison. Ils ont dû le localiser. Ils ont dû savoir où il s'y trouvait. Alors, une foule immense l'entourait. Toute cette foule est venue pour écouter l'enseignement de Jésus. Et Jésus, comme dit la parole de Dieu, leur a annoncé la parole de Dieu. Et il y avait tellement de monde, qu'il était presque impossible de s'approcher de Jésus-Christ. Alors le texte nous dit qu'il y avait quatre personnes qui voulaient voir Jésus et avec eux un paralytique qui était couché sur un lit. Mais remarquons une chose dans ce passage. Remarquons une chose que les quatre hommes qui portent un malade, un paralytique sur le lit, ils s'approchent de cette maison où se trouvait Jésus et ils voulaient rentrer dans cette maison, mais c'était presque une mission impossible. Et pire encore, tous ces gens-là qui étaient là pour écouter la parole de Dieu, personne, dit la Bible, ne se dérangeait pour les laisser passer. Personne ne se dérangeait pour les laisser passer. Et personne ne les a même aidés à entrer dans la maison. Chez nous, dans notre temple, nous avons un service d'accueil. Et je ne sais pas s'il y avait un service d'accueil dans cette maison. S'il y en avait, nous pouvons dire que même le service d'accueil dans cette maison, le frère qui était dans ce service, personne ne s'est dérangé pour aider ce pauvre paralytique d'entrer dans la maison et d'aller voir Jésus-Christ. Cette foule, cette grande foule, était vraiment un obstacle qui empêchait les paralytiques de s'approcher de Jésus-Christ. Non seulement son handicap, parce qu'il ne pouvait pas marcher, non seulement son handicap l'empêchait de s'approcher de Jésus-Christ, mais il y avait aussi cette foule qui l'empêchait de s'approcher de Jésus-Christ. Son handicap, chers frères et sœurs, l'empêchait aussi d'avoir une vie normale, entre guillemets. Cet handicap l'empêchait de mener une vie normale. Et le même handicap aussi l'empêchait de s'approcher de Jésus-Christ. Et personne ne l'a aidé. Personne n'a voulu l'aider. Si nous pouvons faire un petit pas en arrière, nous pouvons dire que, à l'époque, les Juifs, ils établissaient nécessairement une relation entre le péché et la maladie. Ils établissaient une relation entre le péché et la maladie. Entre guillemets pour eux, peut-être pour eux, que sa paralysie, sa maladie, était la conséquence de son péché. Sa paralysie était peut-être pour eux une conséquence de ses péchés. Et nous pouvons dire cela en se souvenant d'un passage dans Jean chapitre 9, le verset 2, là où il est dit que, voyant passer un aveugle né de naissance, les disciples de Jésus-Christ, les disciples même de Jésus-Christ, avaient posé cette question à Jésus-Christ. Dans Jean 9, le verset 2. Les disciples ont posé cette question à Jésus-Christ. Rabbi, maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Ça voudrait dire que c'est comme si, à l'époque, ils établissaient vraiment une relation entre le péché et la maladie. Qui a péché? cet homme, ses parents, pour qu'il soit aveugle, pour qu'il soit aveugle. Mais Jésus-Christ leur a répondu, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Pour la foule, peut-être, qui était dans cette maison, pour eux, ce paralytique était quelqu'un de moins d'important. Entre guillemets, il ne valait rien. On n'accorde point d'attention à un paralytique. C'est de sa faute, peut-être. Il a péché, c'est pour cela qu'il est comme ça. Peut-être. C'est pour cela qu'il est comme ça. Il a commis des péchés dans sa vie, c'est pour cela qu'il a cette maladie. Donc, le paralytique pour eux était quelqu'un de moins d'importance à qui on ne pouvait accorder pas trop d'attention. À qui on ne pouvait pas accorder pas trop d'attention. Même aujourd'hui même, quand vous rentrez dans un bus, dans un métro, dès qu'il y a quelqu'un qui a un handicap, même le païen s'élève pour lui céder la place. Mais là, dans la maison où la parole de Dieu est prêchée, dans la maison où les gens écoutent la parole de Dieu, chose curieuse, personne ne s'est donné de la peine d'aider les quatre amis qui portaient les paralytiques afin qu'ils puissent aller devant et voir Jésus-Christ. La foule ne veut pas se déranger pour quelqu'un qui a moins d'importance à leurs yeux. Et pourtant, lisons la parole de Dieu dans Jacques au chapitre 2. Écoutons ce que dit la parole de Dieu dans Jacques chapitre 2 et le verset 1 à 4. Jacques chapitre 2, le verset 1 à 4. Nous lisons la parole de Dieu. Jacques chapitre 2, verset 1 à 4. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acceptation des personnes. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y rentre aussi un pauvre, misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assis-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre, « Toi, le pauvre, quelqu'un de moins d'importance, toi, tiens-toi là, debout, ou bien assis-toi au-dessus de mon marchepied. » Le verset 4, « Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. » Peut-être cette foule avait jugé aussi sous l'inspiration de pensées mauvaises. Ils se sont dit, c'est un paralytique. On accorde moins d'importance. Mais la Bible condamne cela. Nous l'avons bien dit dans Jacques chapitre 1, verset 4. Et chers frères et sœurs, face à cette réaction de la foule par rapport au paralytique, face au comportement de la foule vis-à-vis de ces paralytiques, nous pouvons nous poser cette question maintenant. Cette foule qui était un obstacle, qui constituait un obstacle pour les paralytiques de voir Jésus-Christ, face à ce comportement, nous pouvons nous poser cette question. Sommes-nous un obstacle pour ceux qui veulent s'approcher de Jésus-Christ, ou sommes-nous ceux qui aident les autres à s'approcher de Jésus-Christ? Est-ce que la foule a aidé le paralytique de s'approcher de Jésus-Christ? Non. Mais nous, aujourd'hui, cette question nous est posée. Que chacun de nous puisse réfléchir. Que ce soit pas seulement dans l'église, dans le temple, ici, dans notre travail, à la maison, dans nos quartiers, dans nos discussions. Nous avons des gens qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Certains qui veulent aussi s'approcher de Jésus-Christ. Mais peut-être pour X, Y raison, ils traînent. Tu les as téléphonés déjà 2 fois, 3 fois, 4 fois. Après, tu te dis à toi-même, « Oh, j'en ai marre. » À chaque fois, je dépense mes unités pour l'appeler. Et la personne ne répond toujours pas. Elle répond toujours pas à mon invitation. Je baisse les bras. Je laisse tomber. Mais la question nous est posée ce matin, frères et sœurs. Sommes-nous un obstacle pour ceux qui veulent s'approcher de Jésus-Christ? Ou sommes-nous ceux qui aident les autres à s'approcher de Jésus-Christ? Il a fallu à ces 4 hommes, à ces 4 amis du paralytique, beaucoup de détermination, beaucoup de volonté pour porter leur ami, le paralytique, jusqu'à Jésus-Christ. Il fallait pour ces 4 hommes surmonter la déception de ne pas pouvoir entrer et finalement le faire descendre à partir d'un toit jusque où se trouvait Jésus-Christ. Remarquons aussi une chose, frères et sœurs, concernant les 4 hommes qui ont porté le paralytique. Dans ce passage, ces 4 hommes n'ont rien dit. Si nous lisons bien le texte, ils n'ont pas parlé. Ils n'ont rien dit. Vous pouvez aller relire le texte à la maison, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Pas un mot. La Bible ne dit aucun mot sur les 4 hommes. Le même récit est relaté aussi dans Matthieu 9, 1 à 8. Vous verrez aussi là, pas un mot. Les 4 hommes n'ont rien dit. Même dans Luc chapitre 5, verset 17 à 26, les 4 hommes, pas un mot, ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Il n'y a aucune parole de leur part dans ce texte, mais ils ont parlé. Ils n'ont rien dit, mais ils ont parlé. Ils ont parlé. Comment ces 4 hommes? Ils ont parlé par leurs actes. Ils ont parlé par leurs actes. Leur foi se manifeste, ne se manifeste pas par des paroles, mais par des actes. Dans notre vie chrétienne, frères, sœurs et sœurs, de foi, je connais bien des gens, bon, pas ici, bon, surtout quand j'étais parti au pays, quand il y a eu le décès de ma mère, oh là, vous rencontrez des gens, ils vous bombardent de versets, Ah, celui-là, oui, il a la foi. C'est vrai, c'est pas mauvais de parler. C'est pas mauvais de partager la parole de Dieu. C'est pas mauvais de donner des versets bibliques. C'est pas mauvais. Mais des fois aussi, vous pouvez parler, mais par vos actes. Laissez parler vos actes. Et ces quatre amis du paralytique, ils ont laissé parler leurs actes. Et ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Leur foi ne se manifeste pas par des paroles, mais par des actes. Impossible pour eux de se frayer un chemin à travers cette foule qui était immense. Les circonstances sont difficiles pour eux, mais ils se sont dit, qu'importe. Qu'importe. Ce n'est pas les circonstances qui vont les arrêter pour atteindre leur but, pour atteindre leurs objectifs. Dans leur foi, ils ont dit, cette foule, C'est un obstacle, c'est vrai, mais ce n'est pas ça qui va nous arrêter. Ils ne veulent pas que nous puissions rentrer par la porte. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ça qui va nous arrêter. Ils ne sont arrêtés par aucun obstacle. Ils se sont dit, j'essaie un peu de me mettre à leur place. Ils se sont dit en eux-mêmes, bon, nous ne pouvons pas rentrer par la porte. C'est pas grave. On va rentrer par les toits.
Tu veux pas que j'en arabe? C'est pas grave. Peu importe. J'en fais pas un problème. Ils n'en ont pas fait un scandale. Ils n'en ont pas fait un scandale. Mais oui, mais comment vous prêchez la parole de Dieu? Vous fermez là? Vous voulez pas qu'on rentre? C'est quelle église? Non, ils ont dit, ok, il n'y a pas de souci. Vous voulez pas qu'on entre par la porte? Ok, il n'y a pas de souci. On va rentrer par les toits. On va rentrer par les toits. Alors, ils grimpent sur les toits et montent les lits avec leur ami dessus, avec les paralytiques sur les lits. Ils montent sur les toits et ils font une ouverture à partir du toit et ils descendent le paralytique sur son lit, juste devant Jésus-Christ. Quelle foi! Quelle détermination! Leur objectif était quoi? Amener les paralytiques aux pieds de Jésus-Christ. Voilà leur objectif. Ils étaient déterminés. Ils avaient la foi. Ils savaient que Christ pouvait faire quelque chose. Nous croyons en lui. Et nous y arriverons. Ils avaient une foi qui n'a reculé devant rien. Une foi qui ne recule devant rien. Quels que soient les obstacles, ils ont foncé et ils ont atteint leur but. Leur foi et leur détermination ont surmonté tous les obstacles qui se sont dressés devant eux. Grâce à eux, grâce à ces quatre amis, les paralytiques se trouvent à la première place, devant tout le monde même, devant tout le monde. Parce qu'il y en a qui étaient derrière, devant la porte d'entrée, mais le paralytique était vraiment devant Jésus-Christ. Et pire encore, devant même les scribes. Devant même les scribes, le paralytique était là et il écoutait la parole de Dieu. Même le paralytique se trouvait devant les scribes qui écoutent aussi Jésus-Christ. Le paralytique se trouve juste devant Jésus et là, il peut maintenant entendre à son tour la parole du Seigneur. Malgré tous ces obstacles, ces quatre hommes ont persévéré. Ils ont persévéré jusqu'à placer leur ami, comme on a dit, au pied de Jésus-Christ. Ils sont un exemple, chers frères et sœurs, d'une foi qui surmonte les obstacles et les épreuves. Et c'est ce que nous devons avoir aussi dans notre vie. Une foi qui surmonte les obstacles et les épreuves. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déterminés, ils savaient en qui ils croyaient en Jésus-Christ et ils savaient qu'ils vont y arriver. La foi, frères et sœurs, n'est pas seulement quelque chose qu'on doit garder pour soi-même. Souvent on dit, mais oui, mais moi j'ai la foi, hein, ça va, ça me concerne, les autres ça ne me concerne pas. Non, la foi n'est pas quelque chose qu'on doit garder pour soi-même, mais la foi doit être aussi tournée vers les autres. La foi doit être aussi tournée vers les autres. Si les amis, les quatre amis du paralytique, avaient vu que la foi était une affaire personnelle, une affaire privée, eh bien, ces paralytiques n'auraient jamais trouvé le salut et la guérison. Parce que c'est la foi de ces quatre hommes qui l'ont amené vers Jésus-Christ. Il n'était pas parti tout seul, les paralytiques. Hein. Il a été amené, apporté par ses amis. Oui, si les amis de ces paralytiques avaient vu que leur foi était... Chacun avait dit que moi, c'est ma foi, ça me regarde, c'est ma vie chrétienne, j'ai resté là. L'autre, ça ne me concerne pas. Ce paralytique n'aurait pas été sauvés, ces paralytiques n'auraient pas été guéris. Mais c'est grâce à la foi de ces quatre paralytiques qu'il a retrouvé sa santé. On ne vit pas sa vie chrétienne tout seul dans son petit coin. Ces quatre hommes n'ont pas vécu leur foi chrétienne chez eux, chacun, dans sa maison, dans son appartement, chez lui à la maison. Non. Mais ils ont vécu leur foi ensemble. Le paralytique est porté par la foi des autres. C'est à cause de leur démarche qu'il va pouvoir
se relever. À cause de la démarche que les quatre hommes ont fait, que le paralytique a retrouvé sa santé. Lui n'a fait aucune démarche. Il était couché, il ne pouvait pas marcher. Déjà pour lui-même, pour aller acheter du pain, c'est tout un problème. Ce n'est pas aller voir Jésus qu'il aurait eu le courage d'y aller, mais parce qu'il ne pouvait pas marcher. Ce sont les autres qui l'ont porté. Leur démarche, remarquons aussi une chose, que la démarche de ces quatre hommes était une démarche collective, une démarche d'ensemble, une action de groupe et non une action personnelle. Chacun n'a pas agi personnellement dans son coin pour les paralytiques. Non, mais ils ont vécu, ils ont agi tous ensemble, tous les quatre. Tous ensemble. Donc, ce n'est pas une action isolée, mais c'est une action collective. C'est ensemble qu'ils sont partis chercher les paralytiques pour le conduire à Jésus. C'est ensemble qu'ils ont eu la décision de les faire passer par les toits. Et c'est ensemble aussi qu'ils ont surmonté les obstacles, qu'ils ont affronté la foule et trouvé d'autres solutions. Souvent, nous chantons un cantique qui dit « Ensemble, nous voulons chanter, ensemble, nous voulons prier, adorer Dada. » Bon, enfin, « Ensemble, nous voulons chanter, ensemble, nous voulons prier, ensemble, nous voulons adorer, c'est vrai. » Mais un peu plus loin, ce cantique dit que « Ensemble aussi, nous voulons porter nos fardeaux et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. » Je ne sais pas si je vais retrouver ce cantique. Bon. Mais c'est un cantique merveilleux qui dit qu'ensemble nous pouvons prier, ensemble nous pouvons adorer, mais ensemble aussi nous pouvons porter nos fardeaux. Ensemble nous pouvons. Nous les chantons ici dans notre église. Ensemble nous pouvons porter nos fardeaux et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Et cela, frères et sœurs, doit être vrai dans nos vies. Parce que les quatre hommes nous ont donné cet exemple. Ces quatre hommes, ils ont vécu cela. Ensemble, ils ont prié. Ensemble, ils ont porté le paralytique. Ensemble, ils ont porté le fardeau de leur ami qui était paralytique. Imaginez porter un homme couché sur un lit jusque sur un toit. Bon, je ne sais pas, mais ce n'est pas donné quand même. Mais ensemble, pas seulement cette souffrance physique, mais cette compassion, cet amour qu'ils avaient envers leurs frères pour pouvoir l'aider, ils ont porté son fardeau tous ensemble. Oui, ils se sont dit ensemble, nous allons porter le fardeau de notre frère et nous allons aussi porter non seulement le fardeau, mais la joie, parce qu'il était sauvé après, il était guéri après, il était dans la joie. Ils ont porté aussi la joie, ils ont partagé aussi la joie de leur frère. Et ils ont proclamé l'amour que Dieu met dans leur vie. Frères et sœurs, que ces chants que nous chantons, que ce ne soient pas vraiment des vaines paroles, mais vraiment qu'ensemble, nous puissions nous soutenir les uns les autres. Parce que c'est la parole de Dieu qui le demande. La Bible dit dans Galates chapitre 2, si nous pouvons lire ce passage, Galates chapitre 6, pardon, Frère Stéphane, si tu peux lire le verset 2, donc, s'il vous plaît. Galates 6 et le verset 2.
Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ.
Voilà. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est ce que ces quatre hommes ont fait. Ils ont porté les fardeaux de leur ami. Et c'est ce que nous devons aussi faire. Et Dieu merci, c'est ce que nous faisons aussi. Et ce que nous devons continuer encore à faire. Parce que la Bible, la parole de Dieu, nous le recommande. Mais la Bible nous recommande aussi d'être serviteurs les uns des autres. Frère, si tu peux lire dans Galates chapitre 5, le verset 13.
par l'amour, serviteurs les uns des autres.
Rendez-vous par amour, par charité, serviteurs les uns des autres. C'est ce qu'ils ont fait, ces quatre hommes. C'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont fait serviteurs de leurs frères. Ils ont servi leurs frères. Est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons continuer à faire? Parce que nous le faisons déjà et nous devons continuer à le faire. Ne nous relâchons pas, frères et sœurs. La Bible dit aussi dans Matthieu chapitre 7 et le verset 12, la Bible dit: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu, chapitre 7, le verset 12. Quand on est malade, on aime bien qu'il y ait quelqu'un quand même. Nous qui sommes mariés, des fois on se fait massacrer à la maison parce que t'as pas fait attention, parce qu'elle était malade, t'as pas fait attention. Ah oui, mais bon, j'ai pas bien dormi, mais le matin, donc à peine t'es réveillé, t'es parti, bon. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas vraiment fait attention. Mais la Bible dit que tout ce que toi tu veux qu'on fasse, qu'on puisse faire pour vous, pour toi, fais-le aussi de même à l'autre. Quand je suis malade ou quand je suis dans des difficultés, quand j'ai des problèmes, j'aimerais bien quand même que entendre ne fût-ce qu'une parole de consolation, une parole d'encouragement, ça fait du bien, comme on dit, ça fait du bien. Eh bien, fais-le de même aussi pour l'autre. Faites-le aussi pour ton frère, faites-le aussi pour ta sœur. Et ces quatre hommes, ils ont compris cela. Ces quatre hommes, ils ont dit: ah, si moi j'étais paralytique et que j'étais couché, et que je sais qu'il y a Christ qui est là, le Fils de Dieu puissant, qui peut guérir, qui peut apporter la guérison, la santé. Qu'est-ce que je... Mais j'aimerais que je fasse, que j'y aille là-bas, qu'on m'apporte là-bas, qu'on m'amène là-bas. Mais comme je ne peux pas marcher, ah, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut m'amener? Et ces quatre hommes, ils ont compris cela. Ils disent non, ce que moi je veux qu'on puisse faire pour moi, ce que nous voulons qu'on puisse faire pour nous, alors faisons-le pour notre frère qui est couché, qui est paralytique, qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas aller voir Jésus-Christ. Alors, occupons-nous de notre frère. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils avaient cette foi-là, ils ont témoigné cette foi-là, et ils avaient cette détermination d'arriver jusqu'au but, parce qu'ils avaient de l'amour dans leur cœur pour leur frère. Dieu nous demande... ne nous demande pas de servir avec la force que l'on n'a pas. On ne peut pas dire, mais oui, mais moi je ne peux pas porter, c'est trop lourd. Oui, d'accord. Nous tous, nous n'avons pas les mêmes capacités. Il y en a qui ne savent pas l'anglais, il y a d'autres qui ne savent pas parler anglais. Il y en a qui parlent lingala, d'autres qui ne savent pas parler donc lingala. Il y en a qui peuvent aborder quelqu'un qui parle créole facilement. Moi, je ne connais pas parler créole facilement. Donc, nous n'avons pas tous le même capacité, c'est vrai. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est de donner ce qu'on peut donner. Dieu ne nous demande pas de le servir avec la force que l'on n'a pas, de donner ce qu'on n'a pas, ou de faire ce qu'on ne sait pas faire. Mais ce qui est important, c'est de servir le Seigneur et les autres avec le peu de force qu'on a. Même si à nos yeux, ce peu-là, c'est rien. Mais on peut servir le Seigneur avec le peu, les peu-là qu'on a, les minimums-là qu'on a. On peut servir le Seigneur. Nous pouvons citer l'exemple de Gédéon, dans Juge, dans le livre de Juge, au chapitre 6, le verset 14 à 15. Gédéon dit à l'Éternel: voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Mais l'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? L'Éternel lui dit: je serai avec toi. Avec le peu que tu connais, avec la moitié du verset que tu connais, vas-y. Le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur sera avec toi. Les deux mots que tu connais seulement dans la Bible. Ah, je ne sais pas prier, mais oui, d'accord, tu ne sais pas prier, d'accord, mais vas-y quand même gagner les âmes pour le Seigneur. Même si tu sais dire seulement « Amen, béni soit l'Éternel », ça suffit. Le peu là, avec le peu de force là que tu as. Vas-y, le Seigneur sera avec toi. Ces quatre hommes, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils se sont mis à quatre pour porter les paralytiques. Avec le peu de force qu'ils avaient, mais ils ont arrivé quand même à faire quelque chose pour leur ami. Et le Seigneur Jésus a loué la foi de ces quatre hommes pour avoir pris la peine d'amener leur ami jusqu'à lui. Jésus ne voit pas seulement la foi de ces paralytiques. Certainement, il avait la foi. Mais Jésus voit d'abord la foi de ces quatre hommes. Et il est dit au verset 5 dans Marc, chapitre 2, le verset 5, il nous dit, Jésus voyant leur foi. Jésus n'a pas vu la foi du paralytique. Jésus a vu la foi de quatre hommes. Comment ils ont fait? La détermination qu'ils avaient, le courage qu'ils avaient, l'énergie qu'ils ont dépensée pour en arriver là. La Bible dit au verset 5, Jésus voyant leur foi, au lieu de s'adresser maintenant aux quatre hommes, le Seigneur s'adresse maintenant aux paralytiques. Ça veut dire, à cause d'eux, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Voilà un bel exemple. Jésus voyant la foi de ces quatre hommes, dit aux paralytiques, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Quel bel exemple à suivre, frères et sœurs. Le Seigneur ne l'a pas condamné. Le Seigneur n'a pas vu le toit de cette pauvre maison qu'on avait cassée, comment, on ne sait pas, la Bible ne dit rien. Et j'imagine aussi si le propriétaire de la maison était là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait dire. Mais Christ n'a pas vu cela. Christ n'a pas regardé le dégât qui était causé. Le plafond, le toit qui était cassé, où ils ont fait l'ouverture. Christ n'a pas même regardé le dégât matériel. Mais Christ a regardé seulement l'intérieur, la foi de ces quatre hommes. Et voyant leur foi, Christ s'adresse au paralytique. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Jésus va à l'essentiel. Et peut-être les gens s'attendaient que, ah, comme on a déposé les paralytiques devant Jésus, maintenant, la première chose que Jésus-Christ va faire, allez, il va les guérir, il va commencer à marcher. Loin de là. Loin de là, Jésus-Christ va à l'essentiel. Il va, non à son, à l'handicap, à son handicap, mais Jésus va directement à sa situation de pécheur. Le premier besoin du paralytique n'est pas la guérison du corps. Loin de là. Parce que la première chose que Jésus a fait, ce n'était pas la guérison du corps. La première chose que Jésus-Christ a fait pour ces paralytiques, il lui a dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Le premier besoin du paralytique n'était pas la guérison du corps, mais la guérison de l'âme, de son âme. C'était la première chose que Jésus-Christ a regardée, la guérison de son âme. La parole de Jésus-Christ remet alors en règle ce paralytique avec Dieu. C'est le plus important. Aujourd'hui, beaucoup de gens mettent l'accent sur la guérison. C'est pas mauvais, mais le plus important, frères et sœurs, c'est pas la guérison. Es-tu en règle avec ton Dieu? C'est ça qui est beaucoup plus important. Es-tu en règle avec ton Seigneur? Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. La première chose, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Le pardon vient avant le miracle. Jésus a dit tout de suite la parole du salut, parce qu'il est le fils de l'homme qui apporte le salut. Et en disant cela, que tes péchés sont pardonnés, cela a fait réagir les scribes, les docteurs de la loi. Ça leur a fait réagir. Alors les scribes, ils se sont dit, mais comment peut-on oser dire à quelqu'un que ses péchés sont pardonnés? Qui es-tu? Qui es-tu pour dire à quelqu'un que tes péchés sont pardonnés? pour les scribes, il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus n'est à leurs yeux, comme le dit la parole, que c'est un blasphémateur. Il a blasphémé. Il a blasphémé. Parce que pour eux, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Les scribes n'ont jamais reconnu Jésus-Christ comme fils de Dieu, même comme Dieu. Et si vous lisez un peu plus loin dans Matthieu 26, 63, à partir du verset 63 jusqu'au verset 66, lors de l'arrestation de Christ, c'était le même, je ne sais pas comment on dit en termes juridiques, mais c'était le même motif pour lequel ils ont condamné Jésus-Christ, le blasphème. C'était le même motif. Mais parce que là, ils ont dit à Jésus-Christ, dans Matthieu 26, verset 63, ils lui ont posé cette question, le verset 63, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Verset 64, Jésus lui répondit, tu l'as dit, je suis le Fils de Dieu. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Verset 66, il répondit, il mérite la mort. Les scribes n'ont jamais reconnu Jésus-Christ comme étant fils de Dieu, comme étant Dieu. Ils n'ont jamais reconnu. Et là, dans Marc, il les traite déjà de blasphémateurs. Et c'est pour le même motif aussi qu'ils ont voulu, enfin l'un des motifs qu'ils ont voulu crucifier aussi Jésus-Christ. Au lieu de reconnaître que Christ est Dieu, ils l'accusent de blasphème. Mais Jésus-Christ va se servir de ces paralytiques pour leur démontrer que lui, le Fils de l'homme, est Dieu. Il vient de Dieu, il est de Dieu et il est Dieu. Il est la parole qui s'est faite chair. Il leur a démontré cela. Non seulement en disant que mon enfant, tes péchés sont pardonnés, Christ est allé encore plus loin, il leur a dit. Maintenant, je t'ai dit, je t'ordonne, lève-toi, prends ton lit et marche. Parce que le pardon des péchés, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas quand on dit que tes péchés sont pardonnés. Les scribes ne voyaient pas le cœur. Alors Christ a dit, je vais aller loin, je vais vous faire voir ce que vous allez voir maintenant. Lève-toi, prends ton lit et marche. Quelqu'un qui était paralytique, il s'élève, il commence à marcher. Pour leur prouver qu'il était Dieu, qu'il avait toute puissance sur lui. Voilà, frères et sœurs. Et dans ce passage aussi, bon, nous allons finir bientôt. Dans ce passage aussi, frères et sœurs, le paralytique n'a dit aucun mot. Cherchez ce que le paralytique a dit, il n'y en a pas. Cherchez ce que les quatre hommes ont dit, il n'y en a pas. Le paralytique aussi n'a dit aucun mot. La parole de Dieu ne dit rien sur le paralytique. Contrairement, par exemple, à un exemple qu'on peut citer de Bartimée, dans Matthieu 10, le verset 46-47, Bartimée, le mendiant aveugle, quand il a entendu parler de Jésus-Christ, que Jésus-Christ passait, il s'est mis à crier. Bartimée s'est mis à crier. Fils de Dieu, fils de Dieu, fils de David, fils de David. Jésus, aie pitié de moi. Il était aveugle, mais il parlait. Les paralytiques n'étaient pas sourds, n'étaient pas muets. Ils parlaient. Mais là, rien. La Bible ne dit rien. Le paralytique n'a rien dit. Donc, dans ces passages, le paralytique n'a pas dit un seul mot. La seule chose qui est dite de lui, c'est qu'il a démontré sa foi en obéissant à l'ordre que Jésus-Christ lui avait donné. Voilà, il a exprimé sa foi. Le paralytique a exprimé sa foi en obéissant à la parole que le Seigneur lui avait adressée. Nous voyons là l'obéissance du paralytique à Jésus-Christ, son obéissance. Quand on lui a dit, quand Jésus-Christ, il faut avoir la foi pour agir comme ça. Vous savez que vous êtes paralysé, vous ne pouvez pas marcher. Mais quelqu'un qui vous dit, lève-toi, prends ton lit et marche, tout de suite, le paralytique a obéi. C'est la seule chose qui est dite concernant le paralytique. Il a obéi, il a exprimé son obéissance. Et par là, nous voyons la foi du paralytique aussi. Il avait la foi en Jésus-Christ, car il a obéi à la parole du Seigneur. Frères et sœurs, quand Jésus répond à la foi, Dieu est glorifié. Quand Jésus-Christ répond à la foi, Dieu est glorifié. Et le verset 12 le dit, « À l'instant, il s'éleva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. » Maintenant, en sortant, les gens lui laissent passer, mais en entrant, personne n'a voulu le laisser passer. Cette foule était un obstacle. Mais maintenant, comme il est guéri, il est sauvé, ses péchés sont pardonnés, en sortant, on le laisse passer. Voilà le monde comment il est. On le laisse passer. Et sorti en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Cette foule qui l'empêchait de s'approcher de Jésus le laisse passer maintenant et il glorifiait le Seigneur pour tout ce que Jésus-Christ a fait. Frères et sœurs, nous pouvons continuer à parler jusqu'à 14 heures, mais je pense que le peu que le Seigneur nous a mis à cœur, que cela puisse demeurer dans nos cœurs, que nous puissions avoir cette foi, cette détermination qu'avaient les quatre amis du paralytique. Une foi qui ne recule devant rien. Une foi qui ne recule pas devant les obstacles. Une foi qui ne recule pas devant les épreuves. Mais une foi qui vaille toujours devant, qui fonce. Qui fonce. Ces quatre hommes n'ont pas voulu trop réfléchir pour dire comment ils vont nous traiter, comment ils vont nous considérer en cassant ce plafond-là. Non, ils n'ont pas voulu, non, ils n'ont pas eu le temps de trop réfléchir. Qu'en dira-t-on? Qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que les autres vont dire? Non, eux, ils avaient un objectif et par la foi, ils ont dit, nous fonçons. L'essentiel pour nous, c'est d'amener notre ami, de le déposer aux pieds de Seigneur Jésus-Christ. Et nous revenons à ce qui a été dit au début. Sommes-nous un obstacle pour ceux qui veulent s'approcher de Jésus-Christ ou sommes-nous ceux qui aident les autres à s'approcher de Jésus-Christ? Que le Seigneur nous bénisse.